Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes.
Et bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, c'est FM 43, la radio de la Haute-Loire qui s'occupe des pâquerettes. Un numéro un peu spécial et plein de surprises. J'en dis pas plus et je vous laisse découvrir.
Du salon Prime Vert, nous avons pris le relais de Fréquence 7, Fréquence 7 qui fait partie également du réseau Aura FM. Et quelle ne fut pas notre surprise une fois qu'on vient d'installer notre matériel ici à leur expo, de croiser quelqu'un qui connaît très bien Aura FM. Bonjour Clémence Bévillacois.
Bonjour, oui c'est ça, c'est bien dit.
C'est quand même assez surprenant de tomber ici. C'est vous qui êtes tombé sur nous puisque vous êtes l'autrice, du logo de notre cher réseau des radios Auvergne-Rhône-Alpes, Aura FM. Voilà. Donc, en plus, on a bien mis en valeur le logo. Alors, vous pouviez pas le rater parce qu'on est à l'entrée du salon. Et en plus, il est bien mis en valeur de par les plaquettes. Et puis également, on l'a mis en gros juste devant notre studio. Nous, ce qu'on voulait voir avec vous, c'est qu'est-ce qui a présidé à votre œuvre ici, votre logo. Comment vous avez réfléchi? Quel était le cahier des charges?
Quand j'ai réalisé le logo, j'étais stagiaire dans une radio du cœur des Bauges, parce que j'habite dans le cœur des Bauges en Savoie, et j'étais chargée de faire la communication visuelle de la radio, et il y avait le logo d'Aura FM à revoir. Et j'ai eu l'idée de mettre un micro en élément central, puisque c'était quand même assez symbolique, ça représentait bien les ondes, la voix, tout ce qui était en lien avec les radios en général, et un micro un peu typé à l'ancienne, type chanson, les anciens micros qui ont un look un peu plus graphique que les micros classiques, et je l'ai mis au centre de la carte région Auvergne-Rhône-Alpes, la nouvelle carte.
Maintenant elle est plus trop nouvelle, mais oui, elle était nouvelle.
L'ancienne nouvelle. Et il y a tout, il y a les couleurs, et je vois que ça a bien été réalisé, puisque j'ai été à la base de la conception du logo. Ça prend quand
il
même
est super.
Du temps.
Hein. Il est super, le logo. Alors, vous savez qu'il y a un site internet où on peut aussi retrouver toutes les radios qui font partie du réseau, écouter leur travail, et surtout que ces radios-là, elles développent des thèmes qui sont présents ici au salon Prime Vert à Lyon. Alors moi, la remarque que je fais, Lily qui est avec nous, t'hésites pas à intervenir. Hein. C'est que on a fait 3 ou 4 minutes d'interview là, et on a déjà cité 3 radios qui font partie du réseau. Hein, donc nous sommes FM 43 et nous sommes aujourd'hui ici à Lyon. On a parlé de Fréquence 7 puisque Fréquence 7 c'était eux qui étaient là hier, et puis Radio Alto.
Oui.
Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette radio?
C'est une radio associative du cœur des Bauges. Donc il y a beaucoup d'émissions sur la culture, la transition écologique, sur la philosophie. Il y a beaucoup de thématiques assez novatrices, je trouve. C'est pas une radio commerciale du tout, c'est assez indépendant quand même dans l'état d'esprit, parce que je dirais que le cœur des Bauges, c'est un peu le Larzac de la Savoie, on va dire.
Donc c'est en Savoie.
C'est en Savoie, c'est au-dessus de l'Échrenne, d'Aix-les-Bains, le massif des Bauges.
D'accord, voilà. On voit.
C'est très dynamique, il y a une équipe jeune et des gens très engagés, très sympas.
Très bien. Est-ce que vous avez toujours, vous écoutez toujours Radio Alto?
Oui, j'écoute parfois. Alors après, j'ai d'autres.
Vous êtes sur la région.
Voilà. Mais il y a beaucoup, une bonne programmation musicale en tout cas. Ils ont des bons choix.
Exactement. Ça m'est arrivé aussi d'écouter, c'est une très très bonne radio, comme Fréquence 7 d'ailleurs. On vous encourage évidemment à aller écouter sur le site internet, donc où on voit votre travail de graphique. Mais alors, si on parle de graphisme, c'est que vous avez vous avez développé votre propre activité, et c'est sympa d'en parler, puisque eh bien vous faites des cours de dessin et surtout des initiations BD, ça le vent en poupe.
C'est ça.
Donc est-ce que vous pouvez nous parler de cette activité?
Donc je suis à mon compte, je suis en auto-entreprise, j'ai créé mon activité il y a quelques années, ça s'appelle l'atelier BD. Donc le but c'était de donner des cours de dessin et de bande dessinée aux enfants et aux jeunes du massif dans lequel je vis. Et parce que je suis de formation de bande dessinée, j'ai fait une école à Saint-Luc en Belgique. Et après un passage au collège où j'étais prof d'art plastique, je me suis réorientée, on va dire, et je suis plus... Je développe mes propres cours plus en lien avec ma formation de base qui est la bande dessinée.
D'accord. Alors avec tout type d'enfants, on peut commencer à quel âge la bande dessinée?
À partir de 5 ans, je fais des stages. À partir de 5 ans, c'est plutôt des arts plastiques. J'ai un peu moins d'élèves de 5 ans, c'est là, peux les accepter, mais c'est le plus gros, c'est plutôt les 8-10 ans, on va dire. Il y a parfois des élèves un peu plus âgés, j'ai des élèves ados.
D'accord.
13 ans,
c'est super, c'est un vrai projet, et d'autant que il y a le numérique maintenant qui nous aide beaucoup. Il y a des logiciels. Vous travaillez justement avec ces nouvelles technologies?
Moi, je travaille avec des logiciels de graphisme pour créer ma communication. Mmh. Mais après, quand je dessine, je vais pas forcément dessiner sur une tablette au départ. J'ai amené un carnet de croquis ici pendant le salon parce que j'aime bien le dessin sur le vif. Et l'observation un peu spontanée, donc ne pas prévoir à l'avance. La tablette, pour moi, ça serait plus un travail de retouche, par exemple créer un logo, j'ai utilisé une tablette.
Oui.
Mais c'est juste un outil, c'est pas le but en soi.
D'accord. Et même les enfants, vous les faites travailler avec papier crayon.
C'est à la technique à l'ancienne. D'accord. On fait un crayonné, après on fait un ancrage. Un peu la BD à l'ancienne, puisque c'est plutôt créer des histoires qui est important, pas la technique elle-même.
D'accord.
Le côté léché d'un rendu sur ordinateur, c'est plus.
Et il faut combien de temps pour arriver à un travail, aussi modeste soit-il, avec des enfants, à peu près, s'ils ont 10 ans à peu près au collège ou au début du collège, il faut quand même combien d'heures pour arriver à quelque chose?
Ça dépend si vous parlez d'un album ou d'une page. Parce que l'album, c'est très long.
Bien sûr, ça peut être un travail sur une année.
Après, c'est vraiment un investissement énorme. Après, en réalisation, moi, je sais, par exemple, mes élèves, ils font des mini BD de 3 cases. En 3 heures, ils peuvent avoir fini.
Ah oui, ça peut être un mini atelier comme ça.
C'est des petits ateliers, parce que faire une page, c'est sur plusieurs séances, ils vont pas faire ça. Ou alors, un stage, genre sur 7 heures de stage,
ils
peuvent faire une page entière.
Okay.
Sans trop les détails. Là, je parle pour les enfants, c'est assez simple. Mais si on veut vraiment bien travailler, on passe quand même du temps, plusieurs heures par case, quand on veut vraiment s'appliquer.
D'accord.
Et est-ce qu'il y a ce côté que vous travaillez lors de ces cours narratifs, un peu, parce qu'on parle beaucoup en fait par les images. Est-ce qu'il y a ce côté-là aussi qui est abordé?
En fait, c'est ça. C'est vraiment l'idée de raconter des histoires. Et après, peu importe la technique. À la limite, moi, c'est pas ce qui m'importe le plus. Après, c'est sûr que c'est un goût de l'esthétique ou du bien fait, mais c'est plus l'idée, c'est d'amener les enfants, les jeunes vers l'expression, vers raconter des histoires, peu importe le style. Après, c'est vrai que c'est important, c'est surtout aller faire voyager.
Bien sûr.
Travailler l'imaginaire, tout ça.
C'était aussi ça par le logo d'Aura FM, de nous faire voyager à travers la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'est ça. peut-être. C'est une belle, vous avez bien trouvé l'idée, l'image est bien vue. Oui, c'est vrai, elle est là, la radio, et surplombe la région. C'est une image très parlante, c'est une belle métaphore.
Pour voir votre travail, on peut aller sur le site internet que j'ai sous les yeux.
Vous pouvez voir.
Voilà, si ça intéresse des jeunes qui encadrent des éducateurs ou des jeunes des jeunes qui veulent pourquoi pas pratiquer avec vous cet atelier. Donc c'est sur www.atelier-du6bd.com.
Oui.
Voilà, et vous vous appelez Clémence Baby Lacroix.
Oui, c'est ça.
Moi, dernière question pour terminer quand même, c'est vrai que la radio, la bande dessinée et la radio, c'est pas forcément très compatible parce que c'est très visuel, mais est-ce que vous avez déjà entendu des bonnes émissions ou vous-même avez participé à des émissions de radio sur la bande dessinée?
À Radio Alto, il y avait une chronique sur la bande dessinée. Après, j'ai plus trop suivi, parce qu'après, quand j'ai arrêté mon stage là-bas, j'ai plus trop suivi cette chronique, mais je sais qu'il y avait une personne qui travaillait à la radio, qui était passionnée de BD, qui avait lancé cette émission. Après, je suis pas sûre qu'il l'ait continué, parce que, pour diverses raisons, mais il y avait bien eu une chronique BD.
D'accord. Ouais.
Après, je
ne
sais plus actuellement.
Non, mais en tout cas, ben, on peut aller voir votre travail. Et en tout cas, on vous remercie pour ce très beau logo qui nous rassemble.
Merci à vous. Hein,
parce que c'est tout un tas de radios qui sont disséminées tout dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes et qui se rassemblent derrière ce logo et derrière on fait une assemblée générale chaque année. On est très contente de votre travail. Donc merci au nom du réseau. Bah, écoutez, merci.
Je m'attendais vraiment pas. En fait, j'avais vu que vous étiez présent sur le salon, je m'étais dit j'irai les voir, mais là je vous ai vu tout de suite en rentrant. C'est bien mis, vous avez bien mis en valeur,
bien placé,
bien situé. Exactement.
En RFM, hein, c'est à peu près 35-36 radios de la région.
C'est marqué, regarde.
C'est 3300 bénévoles, ouais. 250 salariés.
Le nombre de radios, ils ont pas mis le nombre parce qu'en fait, il est assez aléatoire parce qu'il y a toutes les radios sont pas, n'en font pas partie. On aimerait qu'elles en fassent partie, mais c'est pas le cas. Donc, il y en a là pour l'instant, il y en a une grosse trentaine, je dirais.
C'est une grosse trentaine.
Ouais. Donc c'est énorme et surtout il y a tout un tas de chroniques sur tout un tas de thèmes différents dont la bande dessinée. On va creuser on va creuser pour voir si on trouve quelque chose.
Il y a moyen de faire des choses.
En tout cas merci beaucoup pour votre venue et bonne visite au salon.
Super, merci, bonne journée,
l'heure.
Au revoir.
On est toujours en direct du salon Prime Vert. On accueille maintenant dans nos studios éphémères, on va dire ça comme ça, nos voisins d'en face, le média associatif Reporter autour de l'écologie et un de ses membres, Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur les ondes de FM 43. Et puis c'est un plateau radio porté en partenariat avec Aura FM, la fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dis-nous un peu qui tu es déjà, toi.
Moi je m'appelle Thomas, je suis habitant de Lyon et militant associatif, on va dire, sur pas mal de fronts différents, notamment dans le champ de l'éducation populaire, et sympathisant et adhérent de Reporter depuis quelques années maintenant.
Et alors Reporter, ça existe depuis quand déjà ?
Alors Reporter, ce qu'on sait pas toujours très bien, c'est que c'est un journal qui est pas tout neuf, ça date un peu plus de 30 ans maintenant. Ils ont fêté leurs 30 ans en 2019, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est un journal qui était d'abord sous format papier dans les années 90 et qui a eu du mal un peu à perdurer le modèle de rendre accessible sans actionnaire, sans publicité. Enfin, on y reviendra, c'est un peu le combat du journal. Ils ont eu un peu du mal à perdurer ce modèle dans les années 90 et donc il s'est un peu éteint à ce moment-là, il est revenu sous forme numérique plutôt dans les années 2000, sous la forme qu'on la connaît actuellement avec le site internet.
Et alors Reporter aujourd'hui c'est quoi ?
Reporter aujourd'hui c'est un média d'information en ligne, qui est donc un journal qui donne un journal quotidien qui donne tous les jours de l'actualité sur l'écologie, sur les luttes, les alternatives, sur ce qui se passe, l'évolution de tous les sujets en lien avec l'écologie et le climat. Et c'est un journal qui est sans actionnaire, sans publicité, et qui repose uniquement sur le don de ses lecteurs et ses lectrices.
Et c'est associatif, c'est ça ?
Associatif, oui.
Donc, comment on arrive à être un média qui exige quand même de la qualité rédactionnelle, j'ai envie de dire, journalistique,
ouais.
Avec cette dimension associative, de volontariat, de bénévolat ? J'imagine qu'il y a plusieurs voies, du coup.
C'est pas une association dans laquelle le bénévolat est très développé. C'est une association professionnelle, pour le coup. Enfin, le travail qu'on voit au quotidien sur le site, il repose essentiellement sur le travail de...
Oui, j'ai lu qu'il y avait une dizaine de journalistes.
Une quinzaine maintenant.
De journalistes.
Donc c'est quand même une grosse partie du travail. C'est du travail de professionnels, de journalistes qui sont salariés de la rédaction pour leur travail quotidien de journal, enfin, travail journalistique quotidien, quoi. Avec en plus 6 personnes sur des fonctions. Support, on pourrait dire, donc sur de la communication, de l'administration, des choses comme ça. Et donc, il n'y a pas vraiment énorme. Enfin, il y a quelques bénévoles et quelques personnes qui contribuent aussi comme sympathisants, mais on va dire le gros du travail, c'est quand même une activité professionnelle avant tout.
Alors, je pense pas me tromper si je te dis qu'on a à peu près le même âge. Ça va être compliqué de remonter à il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, je pense que.
J'y étais pas, ouais, le journal est plus vieux que moi.
Il y a 30 ans, quand même cette idée, cette philosophie de la planète en danger, de l'écologie, du développement durable était quand même peu répandue. Est-ce que tu sais l'idée première de ce projet associatif il y a 30 ans ?
Ouais, alors je parle de ce que j'en ai compris et de ce qu'on m'a raconté. Hein. Je pense que les gens qui y étaient...
Oui, tu m'as bien précisé que tu n'étais pas porteur de projet associatif.
Je ne porte pas la parole de reporter, je suis sympathisant et puis souvent représentant comme ça sur des événements comme ça. Mais il faudrait leur demander à eux pour qu'ils le racontent plus en détail. Mais en fait, à l'origine, Hervé Kempf, donc son fondateur et qui a longtemps été rédac-chef... je pourrais y revenir, maintenant ils ont un système de rédaction en chef tournante, donc il est toujours rédac-chef, mais il n'est plus le seul rédac-chef, on va dire, si on peut dire ça comme ça. À l'origine, il était journaliste pour le journal Le Monde, et je pense qu'il était en charge d'une partie de la couverture des sujets environnementaux au Monde, et que la création de reporters correspondait un peu à une forme d'insatisfaction aussi de la manière dont c'était couvert. Tel que je l'ai compris, il n'a pas eu la liberté à l'époque. Peut-être que maintenant, ces sujets ont pris tellement de place qu'il aurait plus de liberté aujourd'hui maintenant, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, il n'a pas eu toute la liberté dont il avait besoin pour couvrir les sujets qui lui paraissaient importants en lien avec le climat et avec l'écologie. Et donc, ça partait de ce constat. En fait, il n'arrivait pas à avoir... il n'arrivait pas à couvrir comme il le voulait les différents sujets liés à l'écologie. Donc c'est ça qui a motivé la création de Reporter.
En tout cas, si 30 ans après, Reporter est toujours là, c'est que le projet associatif premier, ce constat, a peut-être évolué, mais est toujours potentiellement le même.
Oui, je pense. Ouais, je pense. Et puis je pense qu'il correspond à un besoin aussi. Une des lignes fortes de Reporter, c'est aussi de défendre une information de qualité quotidienne et entre guillemets la plus objective et la moins biaisée par notamment les puissances économiques qui ont quand même une forte mainmise sur la presse en général dans notre pays, quoi. Il y a beaucoup de gros médias qui sont quand même pilotés par des actionnaires ou par des puissances financières. Reporter, vraiment son cheval de bataille, on va dire, c'est d'arriver à donner une information quotidienne de la manière la plus indépendante possible.
Alors on sait, le projet associatif, c'est des valeurs. En tout cas, je travaille dans une association. Mon projet associatif se définit par des valeurs qui se déclinent ensuite par des missions un peu plus pratico-pratiques, un peu plus concrètes. Quelles sont les missions du quotidien de reporter ? On a parlé de publier des articles.
Ouais, je ne suis pas au quotidien, donc je pourrais dire que ce que j'en perçois, pour moi, c'est informer, relayer de l'information et donner de la visibilité un peu à ce qui se fait partout, aussi bien sur le champ des alternatives que sur le champ des luttes, arriver aussi à faire remonter les différentes problématiques.
Oui, c'est de la liberté d'expression aussi.
Oui, puis c'est un devoir d'information, en fait, aussi arriver à faire en sorte que les gens puissent s'informer gratuitement, de manière assez accessible aussi. Donc c'est une information qui est accessible à toutes et tous, de par son format, mais aussi de par une écriture quand même relativement légère et pas trop complexe, qui donne pas trop mal à la tête au quotidien, quoi. Et donc voilà, son gros devoir, c'est un devoir d'information, comme je le comprends. Et puis après, il y a aussi un devoir de donner une information qui soit la plus indépendante, qui soit la plus fiable possible, enfin du travail journalistique professionnel et sérieux, quoi.
Comment toi, de ce que tu perçois, on arrive à faire que telle ou telle information est plus pertinente qu'une autre pour la ligne éditoriale de Reporter?
C'est dur à dire, là, encore une fois, là, je peux pas parler au nom du journal. Moi, je suis moi-même pas journaliste, donc c'est difficile à dire. Je pense que, voilà, après, bon, c'est de la déontologie journalistique, faire en sorte que l'info soit bien sourcée, qu'elle soit...
En tout cas, tu parlais des comités de rédaction tournant, c'est ça ?
Ouais, ça, c'est hyper intéressant, par contre, je trouve.
Donc, c'est-à-dire que c'est jamais les mêmes ?
En gros, pendant longtemps, ça a été Hervé Kempf, le rédac-chef du journal, en tant que fondateur, et puis un peu la personne qui a porté ce projet, puis ça fait... je crois maintenant 3-4 ans que de plus en plus c'est une fonction qui devient tournante. Donc il y a d'autres journalistes de la rédaction. Je te disais, il y a 15 journalistes en ce moment à la rédaction, donc il y en a d'autres qui je crois que c'est une semaine, enfin ça change toutes les semaines maintenant, que chaque semaine il y a un nouveau journaliste qui va endosser la casquette de rédac chef et qui va un peu prendre ce rôle là
L'idée, tu penses que c'est quoi, d'avoir plusieurs voix?
Sûrement d'avoir plusieurs voix, sûrement, voilà, encore une fois, là, c'est comme je le perçois, je sais pas exactement ce qu'il y a derrière, mais sûrement aussi de dépersonnifier un peu un média et de jouer sur quelque chose de plus horizontal aussi, sortir un peu aussi de ce côté très pyramidal qu'il y a dans les grands médias. Donc je perçois ça aussi derrière, arriver à distribuer un peu plus la parole, à donner plus de représentation aussi aux autres. Et puis aussi, de manière plus pragmatique, je pense que c'est une manière aussi de transmettre, de donner un peu des compétences à des profils plus jeunes, à se saisir aussi de ce rôle-là qui est très peu de gens en fait souvent qui se retrouvent en position de rédacteur chef d'un journal quoi, donc c'est aussi une opportunité.
Alors je vais peut-être tendre le bâton pour me faire battre et tu me dis, mais de ce que j'ai compris c'est que reporter est en danger aujourd'hui.
Bah non, pas spécialement.
Pas spécialement, enfin, par rapport à cette forme papier.
C'est un équilibre qui reste toujours précaire, le modèle économique de reporter, parce qu'il repose uniquement sur des dons, donc c'est pas facile à tenir. Après, de ce que j'en comprends, le journal est en relativement bonne santé économique, même si ça reste...
Donc là, pour que reporter subsiste, dans 30 ans, il faut des dons.
Ouais. Ouais, de toute façon, aujourd'hui, une immense majorité, je crois que c'est 97% des entrées du journal, ça repose sur le don des lecteurs et des lectrices.
Comment on fait pour donner un reporter?
En allant sur le site, c'est très bien indiqué. Sur le site, on le voit très vite, il y a toute une rubrique pour faire des dons. On peut mettre en place des dons ponctuels ou réguliers en fonction de ses revenus et en fonction de la capacité qu'on a.
Alors, reporter, terre comme la planète.
Comme la planète, point net.
Point net,
ouais,
reporter, point net.
Et puis sur tous les réseaux sociaux, vous le retrouvez facilement.
Aussi. Et sur les réseaux sociaux pour suivre tes actus. Reporter, dans 30 ans, à ton avis, ça peut être quoi? De ton regard à toi, Thomas.
C'est une bonne question. Je pense que le monde a changé tellement vite ces 30 dernières années que c'est difficile de se projeter dans 30 ans, en particulier en ce qui concerne les canaux d'échange et de communication qu'on aura dans 30 ans. Donc je sais pas trop. Je sais que moi, je suis pas mal interpellé par pas mal de gens là sur Primevert, par exemple, qui... Je veux bien que d'une personne à l'autre, on me dit « Ah, vous faites du papier, ça pollue. » Et puis la personne d'après, elle va me dire « Ah, vous faites du numérique, ça pollue. » Donc au final, je pense que... Il va y avoir une réflexion aussi sur comment on fait un média d'information le plus sobre possible aussi. Donc, je pense que de toute façon, l'ADN un peu numérique de reporter, elle va continuer, mais peut-être aussi en réfléchissant à comment on porte un numérique plus soutenable, plus léger, plus moins impactant en termes de ressources. Peut-être que c'est des axes qui pourront être travaillés dans le futur, notamment au vu des enjeux. La rareté des ressources auxquelles on va être confronté dans les 30 prochaines années. Et après, je pense qu'une des forces de reporter, c'est aussi d'avoir su s'adapter aux évolutions des moyens de communication et des manières de s'informer. Donc ça, moi, je suis pas devin, je peux pas trop savoir à quoi ça ressemblera dans 30 ans, mais je pense que ça, si je m'imagine reporter dans 30 ans, j'espère qu'il aura réussi en tout cas à continuer à s'adapter à ces évolutions-là.
Toi, tu es bénévole, c'est ça, sur certaines actions extérieures de reporter?
Ouais, bénévole, ou alors sur des salons comme ça, là, ils me font des petits contrats salariés.
Qu'est-ce qui te plaît dans la philosophie de reporter?
Pas mal de choses, c'est le côté, d'une part, le côté accès inconditionnel, entre guillemets, que on voit qu'il y a beaucoup de journaux alternatifs qui sont super, mais malheureusement souvent pour financer le modèle et on est obligé d'être abonné, on est obligé de payer et tout, et ça peut être un frein pour plein de gens pour s'informer correctement. Il y a plein de gens qui n'ont juste pas les ressources en fait de s'informer. Là où le choix de reporter, ça a été un accès inconditionnel, et ensuite on encourage les gens qui sont en capacité de le faire à faire des dons. Moi ça me plaît beaucoup dans la philosophie du journal. Et après son niveau de professionnalisme, on va dire, il y a quand même un gros gros travail qui est fait pour donner une information fiable et de qualité et sérieuse. Il y a beaucoup d'autres journaux aussi qui ont ce niveau-là de qualité et de professionnalisme, mais en tout cas chez Reporter, je trouve qu'il est assez important pour être souligné, et moi ça me plaît, et ça me donne envie de les soutenir. Quoi.
Merci en tout cas, Thomas, d'avoir été avec nous. Alors, Reporter, www.reporter, terre comme la planète.net.
C'est ça.
Merci. En direct du salon Primevert, et on accueille Irène de l'association Lyon-Deux. Bonjour Irène.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci d'être venue nous voir pour parler de votre association.
Oui.
L'association Lyon-Deux, c'est ça?
C'est ça, c'est ça.
Quelle est sa mission, son projet associatif premier?
Eh bien, l'association Lyon-Deux regroupe les électro-hypersensibles du Rhône. On recense sur le Rhône un minimum de 60 personnes qui sont déclarées, qui sont dans l'association, mais nous avons quelqu'un qui répond au téléphone, et il y a environ 200 personnes qui nous contactent régulièrement. Donc on sait qu'il y a un gros problème qui s'accentue, parce que si on regarde les courbes d'évolution du nombre d'électro-hypersensibles, c'est une courbe qui monte tout droit vers le ciel. Hein, c'est une courbe exponentielle.
C'est quoi un électro hypersensible ?
Voilà, alors c'est une personne qui a été rendue malade par un excès d'exposition aux ondes électromagnétiques. Soit des personnes, par exemple, qui habitent dans un lieu entouré d'antennes relais, soit des gens qui travaillent dans un bureau avec plusieurs ordinateurs branchés en Wi-Fi. Au bout de 2 ans, ils se retrouvent complètement épuisés. Ils se demandent si c'est un burn-out ou quoi. Et en fait, un beau jour, en se renseignant, car c'est difficile de savoir ce qui vous arrive, ils comprennent qu'ils sont devenus intolérants aux ondes. Il y a différents stades d'intolérance. Il y a un premier stade où on est gêné, on ne se sent pas très bien, on a un peu l'oreille qui chauffe quand on téléphone avec un portable. Et puis, il y a un deuxième stade qui est le mien, c'est-à-dire que vous avez du mal à supporter les endroits dans lesquels il y a du Wi-Fi, où les gens sont tous avec leur téléphone portable en action. Et dans le métro, parce qu'il y a beaucoup d'ondes, il y a la 4G dans le métro maintenant, dans les bus, tout le monde est sur son téléphone, qui capte Internet, etc. Donc ça complique la vie, et on hésite à aller dans certains lieux. Et puis, il y a le stade 3, ce sont des gens qui sont très très malades, qui ont des douleurs très fortes, corporelles. Ça se répercute évidemment sur le moral. Et là, ce sont des gens qui sont obligés de se réfugier en pleine forêt, en pleine campagne. Bon, vous avez entendu parler de ceux qui vont vivre dans des grottes. Et c'est de plus en plus dur de trouver des endroits où ils peuvent vivre, puisque on est en train de supprimer toutes les zones blanches.
Ça évolue ? Ces stades dont vous nous parlez,
alors,
ça évolue ?
L'avantage, c'est que ça fonctionne comme une allergie. Donc, si vous évitez l'allergène, vous allez mieux. Et là, c'est pareil. Lorsque vous éloignez des antennes, lorsque vous protégez, lorsque vous blindez votre maison, eh bien, vous pouvez aller assez bien, ce qui est mon cas. Et carrément, quand vous êtes dans une zone blanche, vous vous sentez complètement guéri. Mais vous restez sensible. C'est comme si vous êtes allergique à la cacahuète, si vous mangez une cacahuète, voilà. Hein. À nouveau, vous n'êtes pas bien. Voilà.
Comment, je sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce qu'il y a un profil type de personnes électrosensibles ou pas?
Alors, il y a 2 types. D'abord, il y a beaucoup de femmes. 75% des électro-hypersensibles sont des femmes. Pourquoi? Bon, peut-être qu'on est plus sensible en général. Peut-être aussi que les hommes résistent jusqu'à être à moitié mort avant d'avouer qu'ils sont malades. Et j'en ai parlé à quelqu'un qui travaille à l'ANSES et qui m'a interviewé dernièrement, parce que l'ANSES lance une nouvelle enquête pour mieux cerner ce problème. Et elle m'a dit, effectivement, les hommes que j'ai vus, ils étaient complètement détruits. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est que souvent les électro-hypersensibles sont au départ des hypersensibles. Des âmes d'artistes, des gens voilà, sensibles à la beauté, aux émotions, voilà.
Et alors, comment vous parliez tout à l'heure par exemple de s'apercevoir que notre oreille a tendance à réagir à la proximité du téléphone portable, mais est-ce qu'il y a des signes révélateurs de cette électrosensibilité?
Oui. Donc, vous avez différents symptômes. Donc, le premier, c'est la fatigue. Avec le Wi-Fi, vous êtes épuisé au bout de 2 ans. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il y avait du Wi-Fi chez moi, je ne le savais pas. La box émettait en Wi-Fi. On nous l'avait changé et il y avait à l'époque ni bouton ni signal sur la box pour dire qu'elle émettait du Wi-Fi. Donc mon mari, il était moins souvent à la maison que moi. Donc, et puis c'est un homme, il est peut-être plus costaud, je ne sais pas, ça lui a rien fait. Mais moi, au bout de 2 ans, j'étais complètement épuisée, j'ai dû m'arrêter de travailler. Et quand j'ai pu couper le Wi-Fi chez moi, je suis retournée travailler dans les 15 jours. Ça veut bien dire que c'est un problème de pollution environnementale par les ondes électromagnétiques.
Alors justement, on dit bien de ces ondes électromagnétiques, vous le disiez au début, la courbe elle ne fait qu'augmenter. Quelles sont les évolutions qu'on observe en lien avec cette conjoncture, avec ce dont on parle, cette période de transition? Qu'est-ce que vous pensez
alors,
de tout ça?
Le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a de plus en plus d'antennes relais. Si vous prenez l'autoroute, vous en avez une tous les 5 km. Si vous prenez le TGV, c'est pareil. Dans le TGV, maintenant, il y a du Wi-Fi. Ça devient très compliqué pour les gens qui sont un peu sensibles de voyager dans ces conditions.
Oui. Bonjour Irène. Concernant les zones blanches, vous avez évoqué les zones blanches. Est-ce qu'il y a encore ces zones peut-être désertiques? Je ne sais pas si c'est synonyme, zone blanche et zone désertique. Est-ce qu'il y en a encore en Rhône-Alpes, Auvergne?
Voilà. Alors il y en a très peu. Il faut bien les chercher parce que le New Deal mobile, qui est un projet gouvernemental, est de supprimer toutes les zones blanches. On met des antennes relais un peu partout, même dans les forêts, et ceci s'est demandé par les chasseurs, parce qu'ils mettent des colliers connectés à leurs chiens pour savoir tout le temps où ils sont. De plus, vous avez entendu parler de cette application pour savoir où se trouvent les chasseurs quand vous vous promenez en forêt.
Oui, ça vient du gouvernement, c'est tout neuf.
Voilà, donc ça veut dire que les gens se promènent dans la forêt avec leur téléphone portable et qu'il y a une connexion possible. Ça veut dire donc de moins en moins de zones blanches et même en pleine forêt. Donc ça devient très très compliqué pour les gens qui sont très mal, qui sont très atteints. Donc on a un projet avec notre association de faire bâtir un bâtiment isolé, un bâtiment anti-ondes. Ça existe déjà à Zurich, en Suisse, et à Freiburg aussi. Ça a été fait par un architecte qui avait des électro-hypersensibles dans sa famille, et ça marche très bien. Les électro-hypersensibles aussi, leur problème, c'est qu'ils perdent souvent leur travail, parce que maintenant, il faut travailler avec son portable tout le temps, il y a du Wi-Fi partout, et donc, ils tombent dans la pauvreté. Donc, dans ce genre d'immeuble, on veut faire aussi du logement social pour ces gens-là. Et à Fribourg, la ville prend en charge les loyers de ces EHS qui ne peuvent pas payer. Parce que les loyers sont plutôt élevés, hein, c'est genre 1 000 euros. Donc, j'espère qu'à Lyon, et sur la métropole de Lyon, on sera aidé pour faire sortir de terre soit un immeuble, soit réhabiliter un immeuble ancien, avec des murs très épais, en pierre ou en torchis, parce que ça isole très bien.
Vous avez animé une conférence là sur le salon Protéger les enfants des ondes artificielles.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce que cette nouvelle génération qui arrive soit encore plus exposée.
Oui, tout à fait. On voit des enfants très jeunes avec des smartphones dans la main. On voit des gamins qui sont à la fois sur l'ordinateur et sur l'écran du téléphone. Et le problème, c'est qu'on parle de l'addiction aux écrans, d'accord? Ça commence à être connu, mais on oublie souvent le problème des ondes, de l'exposition aux ondes. Or, les enfants, ils ont un crâne qui est beaucoup plus fin que le nôtre, donc les ondes pénètrent dans leur cerveau beaucoup plus profondément que dans le cerveau d'un adulte.
Et plus facilement.
Facilement, bien sûr. Donc, il y a une génération montante qui est en danger, il faut quand même le préciser.
Les solutions que vous proposez avec votre association, vous nous en avez parlé un peu, mais les grands projets que défend l'association qui va...
Il y a aussi ce qu'on a proposé à la ville de Lyon, c'est un observatoire des ondes pour voir s'il y a des points atypiques, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire des endroits où il y a beaucoup d'ondes. Et ça, ça n'est pas normal. Il faut que ce soit signalé aux opérateurs, il faut qu'ils fassent baisser les ondes dans ces zones-là. Vous avez facilement 3 volts par mètre dans certains endroits. Et quand on demande un contrôle à l'ANFER, ils viennent et puis ils disent « Oh, ben, il y a 1,5 volts, ça va, pas de problème. Quoi, 3 volts, où est le problème ?» Parce que les normes en France sont extrêmement élevées. On tolère jusqu'à 40, 60 volts par mètre. Alors qu'au Luxembourg, par exemple, le maximum, c'est 1 volt. Et ce qui est recommandé par le CRIREM, c'est 0,6 volts par mètre en extérieur et 0,2 en intérieur. Donc ce qu'on demande aussi, c'est quand même d'arrêter la folie du déploiement de la 5G. on s'y oppose complètement, parce que là, on est dans un projet qui est carrément de la science-fiction, avec des voitures autonomes, de la reconnaissance faciale tout le temps, partout, comme en Chine, et puis un tas d'objets connectés, une montre connectée, les radiateurs connectés, les volets roulants connectés, etc., etc. Donc là, il y a une accélération très nette de l'exposition des citoyens à ces ondes, et on joue leur santé. On s'en fiche complètement du moment qu'on va vendre tous ces nouveaux objets connectés. Les opérateurs sont très contents. Voilà. Et il y a des publicités à la radio, il y a des publicités dans le bus, etc.
Si on veut plus d'informations sur vous, si on veut contribuer à ce projet associatif,
oui.
On peut ?
Oui, tout à fait. De toute façon, vous pouvez. On a un site internet. Vous cherchez Lionde et puis vous allez tomber dessus.
Donc
L-Y-apostrophe onde.
Au pluriel.
Au pluriel. Voilà. Et donc notre rêve à tous dans cette association, c'est que on fasse baisser les normes et qu'on arrête d'empoisonner tout le monde, parce que c'est une pollution invisible contre laquelle le corps lutte jusqu'à ce qu'il craque et que vous deveniez électro-hypersensible.
Oui, il faudrait que le citoyen lambda soit au courant. Et vous parlez de visibilité, je pense que c'est peut-être là la solution, rendre visible cette pollution qui est quand même gravissime. Et qui annonce le début. On est déjà au 21e siècle, mais ça s'annonce pas rose, on le sait. Mais si on n'est pas au courant, si on ne voit pas, hein, là on utilise le média radio et on est ravi de oui. vous entendre sur ce sujet. Oui. Mais il faut que le concitoyen puisse
puisse réaliser. Alors ce qu'on
réaliser,
a,
voilà.
Oui. Alors on a un certain nombre d'appareils de mesure. Qui émettent des sons, qui émettent des lumières, qui donnent des niveaux, etc. Donc quand on montre ce genre d'appareil aux gens, par exemple, je suis allée à la fabrique de l'habitat participatif à la mairie de Lyon, et il y avait Renaud Père qui était là, et je mets mon appareil en route, et je lui montre tous les niveaux qui étaient au rouge, qui étaient là, estomaqués de voir ça, quoi. Parce que c'est très très exposé, la mairie, en fait, il y a l'antenne de fourrière pas très loin.
Voilà, vous utilisez le terme estomaqué. Oui. Voilà, justement, c'est ça qu'il faut que tout le monde se rende compte, en fin de compte, des dangers, oui, voilà. Des nuisances. Voilà.
Donc c'est ça, notre mission, c'est ça.
Mais du coup, c'est quoi l'idée ? C'est de vivre sans téléphone portable ou vivre avec un minimum de...
Alors, on fait « as low as possible ». C'est-à-dire qu'on fait baisser au maximum les ondes. Donc chez soi, on a un téléphone fixe, filaire. On met son ordinateur relié avec un fil à la box. On met tous ces appareils à la terre. On les relie à la terre pour que l'excès d'électricité se diffuse dans la terre. Un petit peu comme avec un paratonnerre, si vous voulez. Et puis, à l'extérieur, bon, on utilise son portable, mais occasionnellement... Le reste du temps, on le laisse en mode avion, parce que sinon, le téléphone essaye de se connecter en permanence avec l'antenne relais. Donc, il émet des ondes en permanence, et vous êtes impacté, vos voisins aussi, etc. Donc, chez vous, le moins possible, pas de Wi-Fi, bien sûr. On coupe le Wi-Fi, bien sûr, la nuit, au moins faire ça. Et puis, on essaye donc d'utiliser tout le temps des technologies filaires. Le problème, c'est le sans fil.
Donc, en fait, quel que soit notre âge, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre classe, on n'est pas épargné.
Absolument. Tout le monde est concerné. Tout le monde est en danger.
Association L-Y apostrophe onde au pluriel pour plus d'informations. Merci, Irène, pour cet éclairage.
Merci de m'avoir invité. Au revoir.
Bonjour à vous deux, présents au Salon Prime Vert à Lyon, on reçoit deux personnes, vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Marc et je suis sur le stand d'abolition de la monnaie.
Bonjour, je suis Fanny et tout pareil, je suis sur le stand d'abolition de la monnaie avec Marc.
Et que faut-il dire d'autre ?
Bienvenue sur les ondes de Aura FM. Donc, vous faites partie d'un collectif, c'est ça ?
Tout à fait. On est, nous, représentants du collectif Notre Futur, qui est un collectif qui a une vocation politique. Nous nous sommes présentés aux élections législatives sur Lyon en 2022.
Et donc ça fait partie des alternatives proposées lors de ce salon. Et c'est assez original, on va dire, ce que vous proposez, ce serait un monde sans argent, c'est ça ?
Oui, effectivement. Ça peut faire bizarre, dit comme ça. C'est pas non plus du troc. On a souvent l'impression que c'est du troc ou quelque chose comme les sels. Mais non, on est vraiment pour l'abolition de la valeur d'échange, toute forme de valeur d'échange.
Parce que la monnaie, qui est un outil d'échange depuis la nuit des temps, voudrait y mettre un terme et passer, proposer peut-être autre chose, c'est ça ?
Tout à fait. C'est-à-dire que pour nous, intrinsèquement, la monnaie, ok, c'est un outil, mais c'est pas un outil neutre. Et c'est un outil très problématique parce que on le voit, il pousse à la croissance économique pour payer les intérêts, pour payer les marges commerciales. Et on voit ce que fait la croissance économique, c'est-à-dire que c'est une courbe exponentielle donc qui va transformer la nature en chiffre d'affaires jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte exploitable, et ça transforme en permanence le voisin en ennemi commercial. Donc soit on accepte ça, soit on se dit stop, ça suffit, ça fait 4000 ans justement qu'on subit ça et que les gens de bonne volonté essayent de soigner le système et ça marche pas. Donc commençons à imaginer une civilisation de l'accès, une économie basée sur les ressources. Et donc voilà, ça pose plein de questions, mais on est là pour justement faire en sorte que les gens se les posent.
Surtout que l'argent est mal réparti dans nos sociétés. Et on crée des écarts entre continents, entre différentes civilisations. Et surtout que la nature de l'homme, si ma mémoire est bonne, les besoins de l'homme, c'est manger, boire, respirer, se loger, se déplacer.
Se reproduire,
ouais. Mais alors, effectivement...
Pour nous, le problème, c'est un piège de croire qu'une répartition résout le problème. C'est faux. D'abord, la répartition, pour qu'elle soit équitable, ça devient compliqué à dire où commence l'équité. Donc en fait, on est toujours dans la guerre commerciale, même dans un petit village avec une économie locale et tout ça. S'il y a un épicier, ça va. S'il y en a deux, il faut déjà qu'ils se répartissent les clients. Et donc on rentre dans une guerre commerciale qui peut être entre guillemets positive dans l'innovation, mais la vraie innovation et tout ça. Mais généralement, non, on corrompt tout. Et donc la répartition, c'est une illusion, déjà parce que ça marche, ça a jamais existé. Et chaque fois qu'on la met en place, en fait, on apporte trop d'argent dans le marché et ça amène à de l'inflation. Donc en gros, on fait que déplacer le problème. Évidemment, ça part d'un bon sentiment de dire répartissons l'argent, surtout à ceux qui en manquent. Mais par essence, la monnaie est un outil qui est basé sur la rareté relative et donc elle manque. Parce que si une monnaie feuille d'arbre, ça vaut rien. Donc partant de là, on est coincé. On est obligatoirement en guerre. On est obligatoirement dans la spoliation de l'autre. Ça n'aide pas du tout à faire un monde harmonieux.
Oui. Alors peut-être l'inconvénient, c'est qu'on est 7 milliards d'habitants sur la planète. Et il faut convaincre de plus en plus de personnes. Et il y a certains pays, des nouveaux pays, qui émergent et qui ont un robinet ouvert. Ils ont même organisé une Coupe du Monde il y a peu de temps. Et qui, eux, le modèle économique, le modèle capitaliste, ça les réjouit. Et ils dirigent un petit peu, en fin de compte, notre... je sais pas si c'est notre perte, mais notre société de consommation à bout.
Ça les réjouit maintenant parce qu'ils ont l'opportunité de tirer leur épingle du jeu aussi. C'est-à-dire que demain, s'ils manquent d'argent, ça les réjouirait un petit peu moins. Effectivement, vous l'avez dit, il y a un gros travail de décolonisation des imaginaires. Réussir à transmettre cette idée qui peut paraître un petit peu folle à la base.
J'aime bien demander aux gens qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient libérés de la contrainte monétaire. Et à ce moment-là, eh ben, on se rend compte qu'effectivement, c'est une grosse contrainte pour nous dans la vie, généralement, qu'on ferait tout autre chose que ce qu'on fait actuellement. J'invite aussi les gens à se poser la question de, dans telle situation qu'ils trouvent compliquée, qu'est-ce qui changerait si on n'avait pas l'argent en jeu ? Et de là peut commencer la réflexion. Disons qu'il y a...
Dire supprimer l'argent, c'est la provocation au départ. Mais pour nous, nos trois valeurs qui sont même sur le t-shirt, c'est d'abord augmenter les connaissances de chaque citoyen, de chacun de nous. Parce que la base, c'est les connaissances. Ensuite, une démocratie réelle directe, ce qui n'est pas du tout déjà le cas chez nous, ni non plus dans les dictatures dont vous venez de parler. Et ensuite, donc, avoir cette économie post-monétaire pour éviter de recréer des problèmes en permanence qui sont toujours les mêmes.
C'est une remise en question de la société de consommation, de surabondance, quoi.
Tout à fait.
Et
Ça déplace beaucoup de curseurs et ça déstabilise au début. Notre premier réflexe normal, c'est de dire « c'est pas possible ».
Nous, on pense que l'innovation est limitée par la concurrence entre entreprises parce que garder ses connaissances... Enfin, si on donne ses connaissances à une autre entreprise, on donne aussi son chiffre d'affaires quelque part. On donne ce qui va différencier l'entreprise des autres. Demain, vous êtes un super boulanger. Si vous donnez toutes vos meilleures recettes au boulanger d'à côté, ben vous perdez toute votre clientèle. C'est quelque chose comme ça. Donc, finalement, on perd aussi en qualité d'innovation. On limite la transmission des connaissances de chacun. On limite notre intelligence, finalement, sur bien des niveaux, pas que en termes de boulangerie.
Par les brevets, par les copyrights, qui sont des outils qui ont été développés justement pour protéger son chiffre d'affaires. Alors que dans une société post-monétaire, c'est l'inverse qui se développe. Plus on donne ses connaissances aux voisins, plus on s'assure de sa tranquillité, parce qu'il ne viendra pas vous emmerder, si vous permettez l'expression.
Oui.
Donc ça renverse complètement les valeurs, pas les valeurs fondamentales humaines, au contraire, ça les valorise, mais les valeurs absurdes qui mènent à notre monde qui marche sur la tête, où là, c'est encore les marchands d'armes qui sont en train de prendre le pouvoir et on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Mais même sans les marchands d'armes, vu qu'on transforme la nature en chiffre d'affaires, c'est toute la question de y a-t-il une limite ? Et on l'a vu que même avec l'argent, tant qu'il y en a qui peuvent se le payer, ça va être exterminé. Donc réagissons posément. Et ça peut bien se passer si on pose les bonnes questions.
Ok. Bah écoutez, merci. Merci pour votre intervention. Je trouve très intéressant comme sujet, qui est effectivement une remise en question de notre système de société, qui est basé sur le capitalisme par les Américains depuis le 18e siècle, si mes souvenirs... L'histoire sont à peu près là. Et même s'il y a eu dans l'histoire de France, il y a eu mai 68 qui se sont posés quand même, il y a quand même une remise en question importante dans les années, fin des années 60, début des années 70. Ça a amené le monde, une France assez...
consommatrice, finalement.
Plus que consommatrice, numérique. Ouais. Et c'est encore... Je vous remercie d'éveiller nos consciences et se poser les bonnes questions. Revenir à des choses fondamentales. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de monnaie pour pouvoir vivre, tout simplement ?
Ouais, c'est la question. Peut-on faire société sans monnaie ? En tout cas, merci pour l'invitation. Hein, super.
Merci à vous de transmettre.
Si on veut plus d'informations, plus de références, on se rend où ?
Alors, malheureusement, là, je fais une référence à l'informatique. Il y a un site qui s'appelle Notre Futur, donc notre-futur.fr. Mais autrement, il existe des livres pour ceux qui n'aiment pas l'informatique, parce qu'il y a toute une culture post-monétaire qui existe, mais qui passe sous les radars. Et ça existe, donc renseignez-vous, tapez des mots-clés, bon, encore dans l'informatique, ou allez chez votre libraire et vous allez voir qu'il existe des choses.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.
Et on ne pouvait pas terminer ce numéro d'Aura des Pâquerettes sans vous parler de nos artistes locaux, musicaux. Tout de suite, je vous propose d'écouter un extrait de feuilles, un titre d'érable, alias Vincent Brégère, présence entre les départements de la Loire et de la Haute-Loire. Pour plus d'infos, rendez-vous sur Bandcamp. Érable, feuilles, sur les ondes. Très belle écoute et très belle journée.